Quand je l'ai rencontré, il était déjà sorti de tout ça. L'homme que j'ai découvert, c'était pas celui qui avait vécu toutes ces années précédentes, c'était ce qu'il était aujourd'hui.
Au-delà du délire de Florina German.
Mandat de comparution. Monsieur Danny Paco, vous êtes cité à comparaître personnellement au débat du tribunal pénal de l'arrondissement de La Sarine. Mercredi 19 décembre 2007 à 8h, premier étage, salle numéro 6, Fribourg, le 7 novembre 2007, le président du tribunal, Antoine Kléber.
Il m'a très rapidement expliqué sa vie, son passé. Ça m'a touchée parce que j'ai vu qu'il revenait de loin. Son passé, pour moi, c'était derrière et ça m'a mis aucun doute.
Jugement du 19 décembre 2007 du tribunal pénal de l'arrondissement de La Sarine. En la cause, le ministère public et le service de l'action sociale du canton de Fribourg contre Danny Paco.
Le voyage, c'est quelque chose qui était en arrière-plan de ma vie, qui me passionnait. Depuis très jeune, ce petit goût de l'aventure, ce recherche d'autres choses. À 18 ans, marre de l'apprentissage, marre de tout ça. On plante tout, je pars en Inde. Premier grand voyage, la découverte, bien sûr, de toutes les communautés hippies entre Amsterdam et Kathmandu avec le Magic Bus. La culture de l'opium en Inde, morphine, héroïne, opium en soi, bien sûr. C'était finalement une philosophie de vivre. Ces communautés hippies où finalement ben, on met tout ensemble, le peu qu'on a, on se le partage, où la drogue n'était pas comme maintenant un business. Ce n'était pas une question d'argent, mais c'était une question de partager ensemble un bon moment. Donc le but, ce n'était pas de faire du fric sur les copains. Quelqu'un avait du shit, ben voilà, tout le monde fumait, et puis une fois c'est un autre qui avait, tout le monde fumait.
Le tribunal prononce. Danny Paco est reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec un sursis de 5 ans.
J'avais une image très réaliste de ce que pouvait être la drogue. J'avais pas que le bon côté des choses, des morts, des OD, etc. Je suis rentré en pleine conscience de ce que je cherchais. Déjà à l'époque, ben, c'était ce qui était fun, donc voilà, c'était le mouvement de l'époque. Mais en même temps, ben, pour moi, c'était une découverte. Je pense que le mot liberté est un mot primordial dans la culture hippie. Le mot anticonformiste. De concevoir la vie d'une manière complètement différente que boulot, dodo, réussite, argent, etc. De tourner le dos à la société, et voilà, de vivre la liberté, de vivre la folie. Bien sûr, la philosophie était aussi très liée au produit. Le mouvement hippie, ben, c'était que des gens qui fument. J'ai quasi pas connu de hippie qui consommait pas.
Les infractions sont l'achat, la vente, la culture, la détention et la consommation de stupéfiants.
On avait quitté la ville, on était monté dans un chalet en montagne. Cette fameuse attente, première fois qu'on prend du LSD, on a tellement entendu de choses, donc on est impatient de découvrir, de voir l'effet que ça fait. Il se passe toujours un moment entre le moment où on le mange et le moment où l'effet arrive. Ça, c'est toutes les drogues qu'on avale par voie digestive. Tout d'un coup, une sensation comme une main qui me prend mes cheveux, puis je me sens tiré en arrière. Et au même moment, je rentre dans un autre monde, dans le monde des hallucinations, dans le monde du délire. Au départ, avec le LSD, on ne maîtrise rien du tout. On passe d'une image à l'autre. C'est comme si un film défilait devant nos yeux, où on est l'acteur du film. Et puis, petit à petit, on arrive à diriger les pensées, on arrive à contrôler, on arrive à aller là où on a envie. Très vite, ça a une influence également, on se rend compte qu'on a une influence sur l'extérieur. Pour moi, ça a commencé avec un ami où en se concentrant, on arrivait les deux à avoir exactement le même type d'hallucination. Là, on a poussé plus loin, on a commencé à tester sur des gens extérieurs. Je donne un exemple, on est en plein été sur une terrasse, chacun parle du dernier concert qu'il a été voir. Moi et le copain, on prend une idée fixe en tête, qui n'a rien à voir, par exemple de ski. Quelques minutes après, toute la table parle de ski. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on arrive à imposer notre idée. C'est comme si on rentre dans un monde parallèle et puis qu'on a envie d'aller toujours explorer plus loin, toujours plus loin. Toujours cette idée de nos limites, donc on repousse les limites. Si j'ai supporté un LSD alors que les autres prenaient un quart, je dois en supporter deux. Si j'en supporte deux, pourquoi pas trois? Et puis si je les mange, pourquoi je les injecterais pas, etc. Plus loin que j'ai été, par exemple, avec le LSD, c'était 5-6 LSD dans la cuillère, pas par injection. Alors là, on n'est plus dans le délire. On est au-delà du délire. Là, je pense à un moment très spécifique où je m'étais injecté 5 LSD. Ça amène à faire des voyages astraux, donc on laisse son corps et puis on sort de son corps avec son esprit. On est en dessus de la pièce, on voit son corps par terre, on peut se balader, sortir de la pièce. Et puis voilà, j'étais dans ce monde où j'étais plus que ce monde spirit, quoi, sans corps, libre complètement de flotter. Voilà, et là je rencontre une bête sous forme de rayonnement magnétique. Enfin, je la voyais comme des rayonnements magnétiques. Puis cette bête, elle commence à me causer, enfin, dans ma tête, hein, ça se passe sans voix, comme ça, mais c'est comme la transmission de pensée. Et puis elle me dit que ça fait longtemps qu'elle me connaît, que ça fait longtemps qu'elle me cherche, qu'elle connaît mon désir d'être toujours défoncé. Et puis que là, elle me donne la possibilité de plus redescendre. Ça veut dire en clair de pouvoir rester toujours dans un état de délire sans avoir besoin de reprendre du produit. Voilà, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui croche sur un trip, que moi je croyais que ça se faisait par accident, alors que là c'était plutôt un pacte qui m'était proposé pour rentrer là-dedans. Je redescends dans mon corps, je reprends mes esprits, et puis à ce moment-là, ben, j'essaye un peu d'analyser. Et tout d'un coup, ça collait plus dans ma tête. Et puis, je refuse. Je ne veux pas que cette bête elle rentre en moi. Ça, c'est un truc satanique. J'avais très peu de notions, mais j'avais juste entendu parler du bien, du mal, de Dieu, de la vie, de la mort, mais sans plus. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais cette conviction que c'était quelque chose qui était pas bon. Que, voilà. Donc, du coup, je quitte le local. Et là, je deviens comme un automate. Je ne peux plus m'arrêter de marcher. Je marche comme ça sur un automate. Et je vois plein d'esprits autour de moi, toujours sous forme de rayonnement magnétique, qui me disent qu'ils sont là pour me ramener vers la bête, que j'avais conclu un pacte et puis que je dois aller au bout de ce pacte. Et puis tant que je n'obéirai pas, je les verrai toujours. J'aurai beau faire n'importe quoi, qu'ils seront toujours là, présents. Dans ma tête, je réalise que je suis complètement en train de perdre la raison, que je suis en train de devenir fou, j'ai pas d'autre mot. Je rentre chez moi, j'arrive dans ma chambre, lourd, vraiment trop lourd. Une idée fixe dans ma tête, je me dis bon, ben, c'est bon, là, j'arrête, de toute façon, ces esprits vont toujours être là, je vais toujours être confronté à ce délire. Et je me lève pour aller chercher un couteau, en fait, pour m'ouvrir les veines. Et puis avant ça, ben, j'avais été plusieurs fois en voyage, puis j'avais toujours un carnet avec moi quand j'étais en voyage où je racontais des trucs, enfin, où je notais les adresses des amis. Et puis au moment que je passe devant, je vois justement un dessin qu'une amie m'avait fait en cure de désinto. Et puis le numéro en fait d'une famille de pasteurs qui était venu me trouver en cure de désinto. Et puis en voyant ce dessin, en voyant ce numéro de téléphone, une envie de parler une dernière fois à quelqu'un avant de m'ouvrir les veines. Puis je les appelle, c'était, je sais pas, 4-5 heures du mat. Et puis c'est Yvette, la femme pasteur, qui me répond. Puis quand j'entends sa voix, ben, je craque, je commence à pleurer, puis à lui expliquer que j'étais en train de vivre, que voilà, j'en avais marre, j'en pouvais plus, les esprits, les trucs, j'ai l'impression d'être possédé, et puis que voilà, que c'était un point final. Et en fait, pendant qu'elle discutait avec moi au téléphone, son mari est venu me chercher avec une voiture, puis je suis arrivé chez eux. Là, ça a été ma première expérience, en fait, avec Dieu, où ils ont prié pour moi, puis ce délire s'est arrêté. Et puis, je suis resté à vivre là quelques années avec eux en communauté.
À joindre au jugement. Rapport social sur l'évolution personnelle et professionnelle de Dani Paco. Dès son plus jeune âge, il a été confronté aux stupéfiants. Au fil des ans, vu sa toxicodépendance, il a pris des médicaments et subi des cures.
Une crise de manque, c'est quand même difficile à décrire. Je pense que c'est pas possible de reproduire l'intensité. Il y a tout qui arrive en même temps, les vomissements, transpiration, mais quand je parle transpiration, c'est vraiment les grosses gouttes qui tombent par terre, qui mouillent le sol, en même temps des diarrhées, en même temps le ventre qui se tord dans tous les sens, donc des douleurs de fou au niveau des crampes, partout les crampes, le cœur qui palpite complètement, et puis cette sensation de pas savoir si le cœur il va tenir le choc ou pas. On sait jamais si on va ressortir vivant ou non. C'est juste un couloir de la mort, dans la souffrance. Après la cure de Desinto, en 87, je rencontre mon épouse, on se marie. Rapidement, après, on a des enfants. Et puis, les choses passent pas très bien au niveau de la communication, au niveau du couple. Donc, ce besoin de trouver autre chose avec le passé, le passé qui reprend surface. Au départ, j'avais l'impression que c'était jouable. Puis en même temps, très rapidement, j'ai commencé à faire des compromis, à recommencer à fumer des joints en me disant mais je vais pas plus loin, je retouche pas aux drogues dures, je fais que de fumer des joints, tout en vivant comme si j'étais clean.
Sur le plan familial, Dani Paco est divorcé. Il est père de 4 enfants avec lesquels il n'entretient plus de relations personnelles. Il va tenter de renouer le contact avec eux.
Un changement radical au niveau professionnel, rentrer dans le monde des affaires, dans le monde des assurances, de la vente, costard, cravate, donc changement radical de look, extérieur, on dira, avec ce besoin de me retrouver avec moi-même la nuit, en passant des nuits à fumer des joints, à délirer dans mon coin.
Dans le cadre de leurs investigations, les policiers ont découvert que Dani Paco se livrait à du trafic de stupéfiants.
Et puis voilà, très vite, les choses s'emballent. Une soirée, une exception, tiens, pourquoi pas un peu de coke, et puis, sniffer de la coke, pour moi, ça faisait juste que de me frustrer. Donc, très vite, pourquoi pas se l'injecter, des relations en dehors du couple, une maîtresse, coke et sexe, 10 grammes, 15 grammes à suivre. Donc, autant la montée est forte, autant la descente est forte. Donc, dans des quantités comme ça, donc pas possibilité de vivre une descente sans produit. J'avais plus l'argent pour acheter des produits. À ce moment-là, mon oncle, qui était dans le trafic depuis longtemps, un gros niveau, m'a mis en relation avec ses fournisseurs. Et puis voilà, ça a débouché sur un gros trafic, sur les très grandes quantités.
La police a séquestré 1460.
Mon appartement tournait comme une plaque tournante, en fait, à l'image d'un coffee shop sur Amsterdam, mais peut-être en plus poussé, parce que les gens venaient pas acheter simplement pour quelques grammes, donc les gens venaient aussi acheter en gros.
4 pilules d'ecstasy.
Il y avait les tournus constants, tout le temps du monde. Je me levais le matin, on commençait pas pour fumer un joint, puis toute la journée, il y avait des passages. Je passais mes journées à fumer et vendre, quoi. C'était mon job.
Dans le cadre d'une nouvelle enquête, la police a découvert que Dani Paco continuait à s'adonner au commerce de stupéfiants. Ainsi, il y a donc récidive spéciale.
Moi, à ce moment, je n'ai pas l'impression d'être un criminel. Un dealer, oui, mais un criminel, pas. D'ailleurs, je me suis battu assez longtemps avec, avec cette appellation. Jusqu'au jour où finalement il y a eu un truc encore assez space, c'était après ma sortie de prison finalement. Je venais de recevoir des papiers d'avocat de convocation en tant que criminel. Et puis dans ma tête, je me battais contre cette notion de criminel. Et puis à ce moment-là, mon attel qui sonne. Et puis c'est un des gens de service social qui m'annonçait la mort en fait d'une amie à qui j'avais fait sa première injection. Et là dans ma tête, ça fait le lien. Par crime, on attend un meurtre de personne. Et puis ben là, tout d'un coup dans ma tête, je dis ben c'est vrai.
Danny Paco a été impliqué dans un trafic de drogue. Il a déployé son activité en lien avec une bande et à titre professionnel. Il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs.
Dans ma vie, à plusieurs reprises, j'avais entendu parler de Dieu, j'avais été en contact, j'avais même fréquenté des églises, mais tout ça était loin derrière moi. Jusqu'à une nuit où j'entends une voix très, très clairement qui me parle dans ma cellule, où Dieu me dit « Quand tu as appris à marcher à tes enfants, t'as jamais compté combien de fois ils sont tombés, tu les as toujours relevés. Moi, de la même manière, je compte pas, je te donne la possibilité de te relever. » Et à un certain moment, ben, je décide de faire alliance avec Dieu en disant « Mais Dieu, tu me connais, tu sais que pour moi, c'est juste pas possible de pouvoir imaginer d'être clean à la sortie, que j'ai aucune chance de réussite. Si toi, tu changes pas les choses, aucune chance. » Donc, simplement, pour moi, ça s'est limité à faire alliance en disant « Dieu, moi, je t'ouvre la porte. Maintenant, je suis OK de l'ouvrir la porte. À toi de faire le reste. »
Les rapports sociaux sont élogieux et émettent des pronostics favorables.
Le passé, c'est quelque chose qui est derrière. En même temps, ben voilà, il y a les conséquences. Je pense à mes bras, les tatouages, à un trou à la place d'une veine, beaucoup de problèmes de mémoire. À une certaine époque de ma vie, j'avais même de la difficulté à m'exprimer. Pas mal de cellules avaient été brûlées dans mon cerveau, où ça avait été reconstruit. Une autre conséquence, par exemple, le diabète. Donc je m'injectais du sirop pur dans les veines tous les jours. Donc du coup, ben voilà, mon corps a disjoncté et a déclenché un diabète.
La personne avec qui je vis, avec qui je partage ma vie, je pense que c'est pas la même personne qu'il y a 20 ans en arrière. C'est devenu quelqu'un d'autre. Enfin, il est devenu ce qu'il est, quoi, ce qu'il devait être.
Je me suis remarié. Déjà, pendant plusieurs temps, j'avais mis une croix sur construire quoi que ce soit, parce que pour moi, ça me semblait juste impossible que quelqu'un puisse me faire confiance avec tout ce qu'il y a derrière moi. Mais en même temps, ben voilà, on a découvert une envie de partager, une envie de construire ensemble. J'ai eu plusieurs postes de travail refusés à cause d'un casier judiciaire. Par exemple, notamment, j'étais sur un projet de création d'ateliers vidéo avec des adolescents, où là, on me dit, ben voilà, avec un casier judiciaire, c'est juste pas possible.
Il travaille désormais en qualité de stagiaire dans le domaine de l'audiovisuel et attend un contrat à durée indéterminée. Nonobstant son modeste salaire de stagiaire, il fait un effort financier et rembourse 50 francs suisses par mois au service de l'action sociale.
Pour moi, il n'y a aucune garantie. Je pense que la foi est un risque, et pas une garantie, et pas une sécurité, avant toute chose. La tentation de l'argent facile, quelque chose qui pourrait toujours être présent, c'est clair, sur un coup de téléphone pour acheter quelques kilos, un autre coup de téléphone pour les revendre, et puis faire quelques milliers de francs de bénéfices au passage. Mais en même temps, ben, voilà, mon choix de vie est différent. Je préfère galérer au départ, et puis construire petit à petit, plutôt que reprendre les chemins de facilité de l'époque, quoi. Voilà, c'est aussi une question de pouvoir se regarder dans un miroir.
Depuis sa deuxième sortie de prison, il a réussi un spectaculaire redressement de sa situation personnelle. Il ne fréquente plus le milieu de la drogue, ni ne consomme de stupéfiants.
Au-delà du délire, de Florina German. Je remercie Danny Paco, sa femme Claudine, Serge Carrel, Antoniol, Véronique Koller et le Centre universitaire de l'enseignement de journalisme. Mixage, Pascal Doumange.